Quand tu es The Family, tu gères de l'humain, tu gères des interactions avec des entrepreneurs. Et notre métier, c'est de faire en sorte que ces entrepreneurs se sentent bien.
Elle est cofondatrice et directrice de The Family, l'iconique incubateur de start-up à l'international. Elle a un portefeuille de plus de 700 start-up accompagnées depuis 2013, dont au moins 3 licornes valorisées à plus de 1 milliard d'euros.
J'ai envie de donner la permission à des gens qui ne ressemblent pas à la norme. Donc il va falloir que nous-mêmes, on sorte de la norme.
Ils aident des entreprises atypiques à se développer dans une atmosphère positive, mais un événement inattendu va tout remettre en question.
J'ai décidé de créer un programme qui s'appelle Gold Up, qui forme des femmes à l'entrepreneuriat. Et ce programme avait lieu en physique. Et puis là, arrive Covid, pour le coup, faut changer. Et je me suis dit, bon bah, à partir du moment où on est en ligne, on va tout perdre.
Comment trouver l'équilibre entre performance et bien-être? Découvre aussi comment performer même en période de crise grâce aux conseils partagés par la cofondatrice de The Family.
On dit les entrepreneurs, il faut être résilient. Ça veut pas dire rester de marbre, ça veut dire...
Dans cette conversation, tu trouveras comment créer une identité de marque mémorable, comment cultiver le sentiment d'appartenance, comment réussir sa transformation digitale, performer en période de crise et comment savoir faire preuve de résilience. Nous sommes avec Alice Zaguri, cofondatrice de The Family, aux côtés de Nicolas Collin et Oussama Amar. The Family, c'est un accélérateur pour start-up européennes destiné à les aider à décoller, le tout dans une ambiance décontractée avec plus de 700 start-up accompagnées. La valorisation totale de son portefeuille s'élève, écoute bien, à plus de 1 milliard d'euros. C'est non seulement grâce à Alice que The Family avance au quotidien, mais c'est aussi grâce à elle que The Family a une identité visuelle si forte. Bien plus qu'un business, c'est un mouvement d'entrepreneurs qui partagent une même ambition. En plus de ça, The Family est une boîte très agile qui a su rapidement pivoter à la suite de la crise du Covid-19. On a retiré une vraie pépite de cette discussion. Il s'agit d'une erreur à absolument éviter quand tu veux rendre ta marque plus cool. Alice est une entrepreneur d'exception, à la fois à l'écoute de ses équipes, ambitieuse et décontractée. Tu vas adorer cette conversation. Bienvenue, tu écoutes Business Tribe.
Michelle Obama. J'ai adoré, j'ai pleuré en lisant son bouquin. Becoming, tout le monde m'avait dit non, c'est vraiment le cheesy à l'américaine, etc. Non, mais moi, j'ai rien vu de cheesy. Ce qui m'a fait pleurer, c'est quand elle parle de son père et des regrets qu'elle a, parce qu'il était malade et que sa condition, en tout cas de l'époque, ne permettait pas de le soigner dans les bonnes conditions. Un moment hyper touchant, c'était les leçons de piano. Elle a appris le piano sur un piano absolument crade, mais elle ne le savait pas. C'était le piano qu'elle avait en bas de chez elle. Des touches qui étaient à moitié cassées, toutes jaunies. Et puis un jour, il y a une représentation. Elle est trop contente à pouvoir monter sur scène dans un théâtre et jouer du piano devant les gens. Donc elle est toute petite, je crois. Elle a à peine moins de 7 ans. Et en fait, elle arrive face à ce piano, mais c'est un piano où les touches sont nickel. C'est blanc et noir, et donc elle a plus ses repères. Et alors là, il y a sa professeure qui vient et qui met le doigt sur la touche qui était cassée, qui était son repère. Et j'ai trouvé ça très beau parce que ça en disait long, je trouve, sur l'écart qu'il y a, dont on ne se rend pas compte, en fait, entre des gens qui sont, voilà, qui n'ont pas eu les mêmes opportunités, les mêmes chances. En fait, ça paraît invisible et les gens ne comprennent pas pourquoi ils bloquent dans les situations qui semblent normales pour tout le monde. Mais en fait, ils bloquent parce que ils n'ont pas les mêmes codes et ils n'ont pas appris les mêmes choses. Et c'est invisible. Et cette distance invisible, elle en parle beaucoup dans son bouquin.
Partons sur la culture. J'aimerais que c'est vraiment un endroit où je vous trouve très fort. Si on essayait un petit peu d'extraire des clés qui sont applicables pour un business B2C, la culture externe, comment tu crées un mouvement, tu donnes envie aux gens de te suivre. Parce que The Family est connu par des gens qui ne s'intéressent pas à l'entrepreneuriat de base ou qui ne veulent pas entreprendre. Et pour moi, c'est presque ça l'indicateur quand tu as réussi à créer un mouvement, c'est que ça va au-delà du truc de base. Nike, ça va au-delà de est-ce que tu fais de la course à pied régulièrement. Et pour moi, c'est un endroit où vous êtes très, très bon. J'aimerais essayer qu'on mette de la conscience sur des choses que n'importe quel business B2C pourrait implémenter et apprendre de ce que vous avez fait.
Je pense qu'il n'y a pas une action, mais tu l'es. Tu vois, ton parcours, David Laroche, on t'a suivi depuis le départ. Au départ, tu faisais des vidéos, tu n'étais pas à l'aise, tu as souvent dit que tu étais introverti. On a vu la courbe de progression et on a partagé les difficultés de ton parcours. Et donc, ça n'a fait que créer du lien avec toi parce que pour toi, c'est possible. Tu t'es montré en position de vulnérabilité et puis tu as petit à petit partagé toutes tes épreuves. Et donc, les gens se sont dit, mais ce gars-là, il est sincère et puis ça fait plaisir de le voir progresser. Donc, quelque part, ça crée cet attachement-là. The Family, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a 3 associés au départ qui sont absolument différents les uns des autres. Les gens souvent me disent, mais qu'est-ce que vous faites ensemble en fait? À quel moment ça a cliqué entre vous? Donc c'est vrai que dans nos caricatures, t'as l'énarque, inspecteur des finances, ingénieur qui passe son temps à écrire et à lire et à rendre intelligible la disruption numérique pour les intellos du monde entier, globalement, Nicolas. T'as Oussama qui est le super storyteller, c'est un ovni.
C'est clair.
Il provoque quelque chose. Parfois, j'ai l'impression que les gens, je sais pas s'ils écoutent ce qu'il dit ou s'ils sont juste contents d'écouter du Oussama.
Je pense qu'il pourrait parler de cuisine, ça pourrait ouais, marcher des courses.
C'est ça. Et puis, il y a moi où tu dis une nana. Elle ressemble pas à la nana française classique, on va dire, et qui se retrouve dans le milieu tech. C'est un peu inattendu, quoi.
Qui met des chats dans ses teasers.
Voilà, et qui en plus met de la paillette partout dans un milieu qui est plutôt normé, froid, business. Je pense que ça commence par qui sont les fondateurs. Voilà, première chose. Et ensuite, pour créer cette sensation d'attachement et cet engagement de la communauté, il y a le fait de partager la progression, partager la vulnérabilité, partager le « voilà où on en est, voilà où on aimerait bien aller, et c'est avec vous qu'on va y aller ». Et c'est la règle de base de Pixar, de storytelling, qui est « si tu as un personnage, n'espère pas que qui que ce soit s'attache à lui, si tu ne partages pas au départ ses difficultés ». Si tu partages simplement à quel point il fait un héros et que tout va bien, et dans les start-upers, c'est chiffre, 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 finalement, tu crées de la distance et de la comparaison et c'est de la souffrance pour l'autre qui te regarde. Alors que nous, on est qui on est, on dit voilà, on aimerait bien qu'en France, ce soit moins difficile pour que n'importe qui puisse concrétiser ses rêves en créant des boîtes. Bon, bah, pour l'instant, on tourne des vidéos dans un petit appartement et on les met sur YouTube et il y a trois pélos qui les regardent. Et beaucoup d'autodérision sur cette ambition qui est immense et puis c'est cette réalité qui est faite de bouts de ficelle. Je pense que les gens ont d'abord aimé la démarche, la transparence, et puis après, il y a le contenu quand même. Il y a ce que tu racontes et est-ce que ça va les aider réellement. À partir du moment où tu as défini ton objectif qui est de créer un écosystème vraiment vertueux pour les entrepreneurs, tu comprends que c'est un objet qui est assez protéiforme parce qu'un écosystème, c'est pas juste des entrepreneurs qui cartonnent, c'est des employés qui ont la culture startup. C'est des grands groupes qui font confiance à des entrepreneurs. C'est des journalistes qui savent parler des startups. Donc en fait, dans les contenus que tu peux trouver sur notre chaîne, tu as à boire et à manger pour tous ces publics-là, avec voilà, des niveaux de technicité différents dans le langage, et où finalement, tous ces gens, aussi différents soient-ils, s'y retrouvent parce qu'ils ont tous appris quelque chose. Je pense que ça part de là, quoi. C'est la diversité des fondateurs et la transparence de qui on est. Partager le où on veut aller de manière absolument claire, et puis surtout raconter de l'intérieur les difficultés que ça peut être. Les gens s'attachent, ils trouvent qu'il y a une démarche qui est intéressante. Finalement, on en revient toujours à la même chose. Les gens ne vont pas s'attacher aux résultats, hein, mais ce qui les intéresse, c'est vraiment la raison d'être. C'est le why, c'est pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Et si tu es en capacité de démontrer que ce why, non seulement tu l'incarnes, mais en plus, c'est difficile d'y aller et de le concrétiser, je pense que ça crée ce feeling of belonging.
Si t'aimes ce genre de vidéo ou toutes les autres vidéos qu'on a pu faire avec des entrepreneurs au parcours incroyable, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a créé ce qu'on appelle la Scale Week. C'est un événement d'une semaine qui est gratuit, pendant laquelle tu vas pouvoir avoir accès en avant-première et en exclusivité à des entrepreneurs d'exception. Ils ont tous passé la barre des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et certains ont atteint le statut magique de licorne, c'est-à-dire valorisé plus d'un milliard. Avec eux, on va creuser ensemble comment est-ce qu'ils ont fait pour scale leur business. Comment est-ce qu'ils ont fait pour recruter, onboarder des top talents, créer une culture de performance et d'exécution, se positionner de manière unique sur son marché. On va voir aussi qu'est-ce qui se passe dans leur tête en tant qu'entrepreneur en cas de difficulté. Si ça te dit, t'as juste à cliquer en haut à droite, il y a un petit i et tu cliques sur la fiche pour réserver ta place. Les places sont limitées et pendant une semaine, on va voir ensemble comment scale ton entreprise ainsi que la mienne. Personnellement, toutes ces rencontres ont eu un impact majeur. J'ai lu entre 30 à 50 livres par an, mais rencontrer ces personnes, pouvoir les écouter et sentir leur énergie m'a vraiment impacté. Donc si t'as envie de vivre ça avec moi, inscris-toi gratuitement à la Scale Week et on reprend notre échange. Quelle place tu vois au vocabulaire que vous créez et au design? Parce que par exemple, le jingle des vidéos de The Family, c'est atypique. C'est-à-dire que ce soit le son, visuellement, l'univers visuel. Quelle place tu donnes à ça dans justement créer ce mouvement? Pourquoi je te pose la question? C'est que si tu regardes tous les mouvements, ils ont tous un langage commun. C'est-à-dire que le monde de la startup, ça a un vocabulaire. Le monde de la finance, ça a un vocabulaire. Est-ce que tu penses que ça a un rôle pour toi dans créer ce phénomène d'appartenance, des mots comme coup d'État, vous n'avez pas appelé ça série de vidéo business? Ça m'intéresse.
Alors, ok. On est en France quand on démarre, maintenant c'est européen, mais je pense que les problèmes sont les mêmes. On est vraiment des brels en storytelling et en marketing par rapport aux Américains.
Ah, d'accord.
De base.
Ils sont très forts.
Ouais. Et c'est une des barrières au développement et à la réussite de plein de produits. Ne pas savoir transmettre une intention, des valeurs, une mission qui nous dépasse. On ne sait pas faire ça. Nous, on décrit le produit tel qu'il est, etc. Pourquoi on n'a pas appelé coup d'État
C'est Rivido Business. Tu ne veux pas le...
Non, parce qu'en fait, il faut qu'on se marre, déjà, un. Parce que si on est nul à ça, bon, bah, à la limite, dépassons cette difficulté. La marque véhicule toujours aussi un mood et un état d'esprit de ce que tu vas y trouver. Et coup d'État, hein, puisque tu en parles, l'idée, c'est... Ok, on n'est pas bon à monter des boîtes, on va apprendre à entreprendre, c'est pas grave, même si on part de nulle part. Et puis on écrit coup d'État, parce que c'est référence à renversement, c'est vraiment prendre le pouvoir hein, par le savoir, c'est vraiment l'idée de je vais m'approprier par moi-même le savoir-faire entrepreneurial. Et avec un cas comme Kikoulol, l'Internet, les fautes d'orthographe, ça dit on est drôle, on se le permet, il n'y a pas de pression, et par contre on va prendre le pouvoir. Il y a toute cette intention-là. Et par rapport à ce que tu disais sur l'importance de jingle, mélanger des chats avec du reggaeton, quand tu es dans un milieu qui veut donner la permission, j'estime pas que The Family, c'est le milieu start-up. J'estime que c'est un milieu entrepreneurial, c'est-à-dire de gens qui ont envie d'innover. OK, aujourd'hui, il y a Internet et c'est génial. Et donc, on s'en sert comme d'un outil, mais au service de l'entrepreneuriat. Je ne me retrouve pas du tout dans les esthétiques ou les univers assez normés que tu vas voir dans les grandes startups de San Francisco, que tu vas voir partout en Silicon Valley, ou même que tu vas voir dans les incubateurs classiques quand tu te balades un peu en Europe. J'ai envie de donner la permission à des gens qui ne ressemblent pas à la norme. Donc, il va falloir que nous-mêmes, on sorte de la norme. Tu montes, tu lead by example. Donc, si tu fais un truc hyper normé, chiant, qui ressemble à tout ce que tu as vu, bon, bah, tu auras les mecs chiants classiques de la norme. Si tu fais un truc qui sort complètement du lot et qui dit c'est n'importe quoi, c'est complètement what the fuck. Je veux dire, souvent, ce qu'on fait en premier, les gens, ils ont d'abord un truc comme ça. C'est-à-dire, ils ont un moment de recul de hein? Et après, du coup, ça les interpelle.
T'aimes bien quand tu vois ça ou pas, toi?
Ah, j'adore. C'est pas donné, quoi. C'est-à-dire, ils se disent pas, ah, ça fait référence à ça. Ils disent, d'où ça sort, ce truc? Je vois pas trop les références. Et peut-être parce qu'il n'y en a pas, en fait, de référence. Il n'y a pas d'autre chose. Enfin, évidemment que si, hein, on puisse toujours ça, son inspiration de partout.
Mais
on ne réinvente rien.
Mais, évident, encore une
mais
fois.
Dans ce milieu-là, tu n'as pas l'habitude de voir ça. Donc, du coup, ça t'interpelle. Puis il y a une énergie derrière, il y a toujours cette intention de bienveillance, de drôlerie. Au final, pour parler de business, pour parler de sujets qui sont quand même assez pointus, durs, scientifiques souvent, basés sur de l'expérience et qui, usuellement, sont plutôt traités de façon assez ennuyante. Ça, c'est par rapport à tout ce que tu décrivais sur le ressenti de la marque. Et pour moi, la marque, le plus important, c'est qu'elle soit invitante et qu'elle donne la permission.
Mmh. Non, c'est super intéressant, en plus, de clarifier encore une fois donc, l'intention que j'ai, les émotions que les personnes qui vivent quand ils sont en contact de ma marque, les valeurs qui sont transpirées, alors que ça soit le côté cool ou que ça soit le côté décalé. Plus je suis clair là-dessus et que c'est en plus en phase avec qui je suis, plus derrière, mon seul job, c'est de transpirer ça le plus possible dans ce que je crée.
Il n'y a pas de règle absolue, mais s'il y en a bien une que j'ai appris sur le terrain en design, c'est qu'il ne faut pas chercher à être cool. Parce que quand tu cherches à être cool, t'es pas cool.
Donc il faut chercher à faire ce qui est cool pour toi.
Ouais, exactement. À faire quelque chose qui va vraiment servir ton intention et prendre un risque en design. Et c'est quand t'as pris un risque et que l'intention du sentiment que t'aimerais procurer aux gens qui regardent est juste, il y a une adéquation entre ton intention et ce qu'ils reçoivent, que potentiellement ça peut être cool. C'est une conséquence de la justesse entre ton intention et ce qu'ils perçoivent.
Ça peut ne pas être cool au début et le devenir extrêmement plus tard. C'est ça aussi qui peut se passer?
Je pense qu'il ne faut pas se dire « il faut que ce soit cool ». Il n'y a pas beaucoup de règles que je me dis, mais souvent, en tout cas dans les réunions de design, quand on se dit « ah, il faut que ce soit cool », c'était jamais cool au résultat. Parce que cool, ce n'est pas suffisant.
Donc tu remplacerais comment du coup? On est en train de brainstormer.
Parce que cool, ça ne veut tout rien dire, c'est un mot valise en fait.
Dans ton cas, tu vas t'arrêter à « on veut surprendre et on enlève cool », par exemple.
Ouais, alors après, si tu veux qu'on rentre dans la méthodologie du swag de The Family...
c'est ça que moi j'aime.
Ok.
Parce que tu vois pas ça sur YouTube. Moi, je veux apporter quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de...
Ok.
Je vais dans les coulisses de The Family.
Ok. Les coulisses du swag, c'est d'abord un entretien. On travaille avec les entrepreneurs là-dessus, sur ces questions-là, parce qu'on les aide dans l'incarnation de leur marque à eux. Donc, du coup, ça va souvent commencer par un face-à-face, comme on est là. Avec toi, tu es entrepreneur, ma designer et moi. Et on est tous les trois, et puis c'est sympa, on a une heure et on va discuter. Et là, je vais te poser plein de questions, plein de questions. On va ping-ponger et je vais essayer de comprendre, non pas ta boîte, mais toi, qui t'es.
D'accord.
David Laroche. ton enfance, qu'est-ce qui te passionne, quelle musique t'écoutes, est-ce que tu as des frères et sœurs, pourquoi tu fais ce que tu fais, comment tu t'y prends, quels sont tes rêves de gosse, t'as grandi en Essonne, bah raconte-moi, c'était comment l'Essonne, enfin voilà. Donc vraiment, je vais être dans l'écoute active pour essayer de m'imprégner de
qui je suis au fond.
Ton univers, tu vois, essayer de vraiment de et je vais être volontairement dans un mouvement de il y a un trésor à découvrir en lui et je suis là pour le découvrir. D'accord ? Donc il y a vraiment une volonté de t'aimer. Ça c'est hyper important. Moi, je vais te permettre de réaliser les choses qui sont complètement intéressantes
dans ton... Mais que je vois pas parce que c'est tout le temps
là. Exactement.
T'as un exemple de ça, t'as marqué avec un entrepreneur, il voyait pas quelque chose qui te reviendrait là.
Mais c'est systématique en fait, c'est tout le temps, dès que tu fais un exercice de swag.
Et qui... un exercice de swag. Bah justement, est-ce que t'as un exercice de swag qui te revient, ou ça t'a touché toi?
Bien
de...
sûr, bah de... Agricool. Agricool c'était génial. Ils sont des enfants d'agriculteurs, ils ont un parcours un peu classique, école de commerce ou d'ingé, je crois, il y a un mix des deux. Et ils sont vendeurs en industrie pharmaceutique. Ils rêvent de vraiment résoudre un problème à grande échelle, la malnutrition. Et puis aussi, tout en respectant la terre, en ayant une démarche écologique, quoi. Donc, ils sont là-dedans. Et en fait, les deux, ils payent pas de mine. Ils sont très humbles. Mais ils exécutent, c'est très impressionnant. Ils ont fait pousser leurs fraises tout seuls dans leur garage, etc. Et donc, ça va complètement à l'encontre de ce que je t'ai dit, parce qu'on les a appelés agricool, donc il y a cool dans le mot, tu vois, donc ne pas vouloir être cool. Bon, bah là, en fait, je me souviens de me faire la réflexion avec Julia à l'époque, qui est la designer, et on se dit, ils sont cool, hein. Ils sont vraiment cool. C'est vrai que c'est la fille d'agriculteur cool, quoi. Et c'est elle qui sort, bah, agricool. Bon, c'est ça, c'était juste pour le naming, mais en fait, c'était juste de leur faire prendre conscience. Quelque part, tu t'intéresses aux gens, tu les aimes, t'essaies pas de les enfermer dans des cases, mais quand même, tu tires un peu la caricature avec amour et bienveillance de ce qu'ils sont, pour en voir le beau, pour en voir l'inattendu, et pour qu'ils soient fiers aussi de ce qu'ils sont. Parce que le branding, si ça te ressemble pas et si ça part pas de toi, t'auras du mal à le porter, à le représenter.
Oui, à l'assumer. C'est un peu comme les vêtements. C'est-à-dire que tu peux trouver que quelqu'un peut être stylé dans un truc qui, si tu le mets, tu vas être là ou là, je suis bizarre, c'est quoi ces vêtements? C'est d'ailleurs le propre du style vestimentaire, s'il est vraiment prononcé, il n'y a que quelques personnes qui peuvent être bien et pour qui ça va être beau parce que c'est eux, quoi.
Ouais.
Der, Ker, Cher, c'est des mots que vous citez souvent. J'ai entendu que chacun des trois associés, vous étiez l'un. Tu es lequel dans les trois?
Parmi ces trois valeurs qui sont Der, Ker, Cher, j'aime bien dire qu'en fait, chacun en embrasse un bout des trois. Le Ker me tient particulièrement à cœur.
Et justement, c'est quoi pour toi le care? Ça donne quoi dans ton quotidien, dans ta famille?
Les trois vont ensemble. Donc, si tu veux, ça serait un peu mutilé le triptyque si on enlève une. Parce qu'en fait, je pense que ça marche vraiment ensemble. Ça sert à rien d'être uniquement dans la bienveillance et dans l'écoute active et dans la prise en compte des émotions si par ailleurs, t'es pas dans un environnement où il y a des gens qui osent et qui sont dans l'action. Donc le dare, tu vois, le fait de faire. Et ça a été une découverte quand j'ai commencé à fréquenter des ingénieurs et des entrepreneurs. C'est cette capacité à passer à l'action et sans demander la permission, concrétiser des applications, des services. Le dare est aussi important. Et le share, pareil, il marche avec parce que tout ce que tu fais, si tu y mets du cœur, tu as envie de le partager. Il nous semblait, dès le départ, quand on a démarré The Family, hyper important de tout de suite mettre en ligne tout le savoir qu'on partage aux entrepreneurs. Et en fait, ça a été au départ un peu une expérimentation. On s'est largement inspiré de ce qui se faisait en Silicon Valley. On en a été invité des entrepreneurs aguerris qui avaient monté des boîtes incroyables. On leur a demandé de partager leur savoir-faire d'abord à nos entrepreneurs. Puis finalement, ça faisait des super contenus. On les a mis sur YouTube, tu connais.
Ça a cartonné. Tu peux me traduire en version française? Ce qui est très dur avec la traduction, je trouve, c'est que même si tu prends la traduction des fois littérale, ça n'exprime pas forcément l'idée que tu veux exprimer.
Parce que j'aime bien ici, c'est que tu as trois verbes. Der, Ker, Cher, donc le verbe dit l'action. Déjà, ça me parle parce que souvent, on dit parle-nous des valeurs de ta boîte. Et donc, les valeurs, c'est moins dans l'action, quoi. Si je devais te le traduire, der, c'est le fait d'oser. Le verbe, ce serait oser et la valeur, c'est l'audace. Mais en même temps, pour moi, quand je dis dare, je rajoute une notion de matière. Ose faire, ose passer à l'action, ose rentrer dans la matière. Ose partir d'une feuille blanche et...
Démarre.
Exactement. Prototyper ton produit, pitcher ta boîte.
Comment tu gères, quand tu es entrepreneur, ce côté « je veux donner du pouvoir aux personnes pour qu'ils aient du leadership, qu'ils prennent des responsabilités » et en même temps, j'ai des attentes ou j'ai une certaine ambition. Comment tu gères cet aspect-là?
J'ai vachement évolué là-dessus. Parce qu'au départ, je pense que j'étais clairement une micromanageuse et une contrôlante. Donc clairement, j'allais m'énerver quand le résultat n'était pas ce que j'attendais. Heureusement, je pense que j'ai évolué là-dessus. Moi, je suis The Family, c'est ma première boîte, donc j'ai pas beaucoup d'expérience. Et ce qui m'a beaucoup aidée là-dedans, je dirais, c'est l'intelligence du cœur, vraiment. C'est réussir à comprendre que quand tu montres à l'autre, déjà, t'as l'ascendant, hein, parce que même si on dit dans les startups, les titres ne comptent pas, quand t'as la CEO qui te tombe dessus et qui te dit ça va pas, ça fait mal. Hein. Prendre en compte ça, le fait qu'il y a une différence, donc tu peux pas, même si je suis cash et même si je dis toujours c'est avec bienveillance que je te fais un retour, non, enfin, il faut que je prenne en compte le fait que je suis la boss, donc forcément ça va avoir un impact et ça peut blesser.
Et en plus, au-delà de blesser, ça peut juste faire peur sur est-ce que mon poste, je vais le garder, qu'est-ce qui va se passer après.
Ouais, t'as sorti le mot-clé, c'est la peur. J'ai compris petit à petit que mon métier, c'était pas du tout de faire que les gens fassent ce que j'avais en tête, c'était de désamorcer les peurs. Si je réussissais à désamorcer les peurs, j'allais obtenir des choses bien plus intéressantes que ce que moi j'avais anticipé. Et d'ailleurs, ce qu'on dit souvent, c'est que tu recrutes des gens qui sont meilleurs que toi, et c'est le cas. Et donc, s'ils sont meilleurs que toi, ils délivrent des choses auxquelles tu n'avais...
Ouais, c'est ouf quand ça fait ça.
Voilà. Mais alors, après, donc ça, c'est une chose. Donc, mon métier, c'est désamorcer les peurs. Ça veut dire mettre à l'aise l'autre, être tolérant par rapport au résultat quand il n'est pas au niveau, etc. Donc, ça, c'est la ligne de conduite qu'il faut garder quand tu es un manager. En fait, ce n'est pas qu'un entrepreneur, c'est un manager. Après, je pense qu'il y a vraiment des phases. Moi, ma façon de faire, c'est phase 1, quand quelqu'un vient d'arriver, je fais avec. On va faire des appels avec des entrepreneurs ensemble, on va écrire des emails ensemble. Les guidebooks où il y a tout qui est écrit, c'est bon pour des boîtes où il y a du produit, c'est très clair et il y a un process absolument rodé. Quand tu es The Family, tu gères de l'humain, tu gères des interactions avec des entrepreneurs. Et notre métier, c'est de faire en sorte que ces entrepreneurs se sentent bien et qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour nous demander n'importe quoi. Mmh. Tu vois, il faut être flexible, il faut être
C'est beaucoup d'intangibles, c'est plein de
choses. Exactement. Donc, phase 1, tu fais avec. Phase 2, tu laisses faire et t'es là en bac. Et phase 3, t'es plus qu'un lointain support. Mais il y a cette phase 1, je pense, qui est nécessaire où tu fais avec. Tu peux pas dire à la personne, vas-y, débrouille-toi dès le tout départ. Et espérer qu'elle s'en sorte bien, tu vois.
J'aimerais prendre un exemple comme ça concret où moi j'ai un dilemme, c'est-à-dire qu'il y a des endroits dans mon business où c'est hyper fluide parce que ça pourrait être comment on va organiser l'événement, il y a plein de détails qui j'ai confiance et ça va être facile pour moi avec les bonnes personnes de dire ils vont faire des trucs différents et parfois beaucoup mieux que ce que j'aurais fait. Il y a un endroit où pour moi c'est plus complexe, c'est sur le design. Parce que le design c'est une vraie valeur haute pour moi, j'adore ce qui est mis en valeur et j'en profite que je sais que toute cette partie-là c'est quelque chose qui est important pour toi. Je vais l'avoir le design à plein d'endroits. Ça peut être le design, la couverture d'un e-book. Ça va être la miniature de nos vidéos. Et moi, c'est un vrai dilemme. Tu vois, en ce moment, on est en train de créer un livre qui n'est pas un vrai livre en soi. Ça accompagne un produit numérique qui a pour but de résumer. Et donc, le design, il y a deux aspects. À la fois, c'est plein de détails pour faire quelque chose de beau. Est-ce qu'il y a suffisamment de marge sous l'équipe tout le temps? Et de l'autre côté, c'est les goûts. Et c'est pas évident pour moi d'arbitrer entre qu'est-ce que j'aime pas parce qu'en fait, c'est juste mes goûts, il faut que je lâche. Et qu'est-ce que j'aime pas ? Parce que non, mais vraiment, on est en dehors, entre guillemets, de code de design et ça va pas le faire. Et le design, ça joue dans créer un univers. Et chez vous, c'est très fort. Au palmier, les couleurs. J'ai demandé à Oussama, il m'a dit que ça venait beaucoup de toi, cette dimension-là. J'aimerais qu'on se mette un peu dans ta tête. T'as un nouveau lieu, Berlin. J'ai vu la conférence de Firmin à Berlin. Et j'ai vu, on retrouve l'univers. Alors, ça se passe comment ? C'est toi qui vas dire, je veux que tu me fasses la copie de ce que moi j'ai fait à Paris.
Ce que j'aime dans ce que t'appelles le design, en fait, c'est l'ensemble des images. C'est l'ensemble de l'incarnation. C'est tout. Là, tu parlais du lieu, de la lumière, que ce soit un site internet, un livre. En fait, tout ça, c'est du design. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que ce n'est pas le bleu égale le calme égale le corporate, les typos hein, empattement égale old school. Bien sûr, tu as des petites choses, des associations comme ça, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que dans une boîte, je pense que finalement, le design, il va évoluer. Tu peux dire ce que tu veux dire de mille façons différentes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu veux dire. Moi, ici, je suis dans ton setup. Eh bien, je comprends plein de choses. Ton setup, il dit minimalisme, ambition. On est dans le noir et blanc, il y a un truc très moderne. On pourrait être un peu dans un hôtel ou dans un loft d'un entrepreneur qui a revendu sa boîte. On sent que, voilà, ça dit plein de choses déjà, en fait. Ton t-shirt blanc hyper simple, il dit plein de choses. En fait, c'est quelle est ton intention? Et c'est marrant parce qu'on peut le rationaliser a posteriori, mais d'abord, on le ressent. Et donc, quand on arrive ici, on ressent tout ça. Et le design, c'est exactement ça, en fait. C'est quelle sensation je veux faire ressentir aux gens. Et l'intention du design avec The Family, c'était de faire ressentir vraiment The Family. Et qu'est-ce que c'est The Family ? Pour moi, c'était l'autorisation de passer à l'action. C'est le fameux dare, c'est aussi se soutenir les uns les autres, le care, et c'est l'idée qu'on peut créer un écosystème. Alors au départ, hein, quand on démarre The Family, c'est depuis Paris. Aujourd'hui, on a vraiment une vision beaucoup plus globale. On accompagne des entrepreneurs qui sont partout en Europe. Il y a une idée de solidarité au sein d'une communauté qui a envie de créer une boîte ambitieuse, une boîte qui cartonne, qui déchire. Tu veux véhiculer ça. Donc cette permission, l'autorisation qu'on se donne, et donc ça, l'autorisation qu'on se donne, pour moi, c'était important d'avoir un truc qui soit à la fois chaleureux et à la fois complètement loufoque. Et en fait, ça, tu peux le faire de plein de manières. Moi, j'ai choisi le kitsch, parce que j'aime bien le kitsch, dans les styles, tu vois, artistiques. J'ai choisi un peu, parce que je suis sensible à l'art déco. Il est né après la révolution industrielle. New York, ce sont des bâtiments art déco, tu vois. Ça véhicule une envie d'ambition. Et c'était un peu le renouveau d'une ère. Quelque part, moi, c'est un peu ce que je voulais exprimer en réutilisant l'art déco. C'était après la révolution digitale, il y a une ambition. Et donc, c'était un clin d'œil à cette époque où on a vu en grand les choses. À partir du moment où tu as posé tes intentions, qu'est-ce que tu veux faire ressentir ? Tu as mille chemins pour y arriver. Et c'est pour ça que dans le design, c'est très décevant ou limitant quand les gens te donnent un guidebook avec les couleurs, les marges, etc., sans en comprendre le point de départ. Parce qu'en fait, un bon designer, il prend ton intention et s'il est suffisamment excité par ce projet, même s'il n'aime pas forcément l'art déco ni le kitsch, il va réussir à délivrer ton intention. Donne plutôt les clés aux autres de quelle est mon intention. Donc, ça veut dire être conscient de ce que t'aimes.
Pour moi, il y a une vraie pépite pour aider peut-être ceux qui nous écoutent à la conscientiser. C'est pas seulement ce que t'aimes dans le sens j'aime le bleu ou j'aime le rouge ou j'aime tel type de meuble ou tel type de bois. C'est ce que j'aime, pour moi, une vraie pépite là-dedans. C'est tiens, je veux que la personne, quand elle voit ça, elle ait telle émotion, elle ait telle sensation ou ça la branche à telle valeur. Et après, tu te débrouilles. Ça fait vraiment parallèle pour moi à un bouquin là, que je lisais hier qui est vraiment génial, Ideas That Stick. Mm-hmm. Il est vraiment ouf ce bouquin, sincèrement. Je ne sais pas si tu l'as lu.
Non.
Il est ouf. Et j'ai vraiment aimé ce truc-là. Il dit qu'au début, les colonels d'armée, ils essayaient de mettre beaucoup de valeur sur le fait de créer un plan. Sauf qu'ils ont réalisé que sur le champ de bataille, ton plan, il n'est jamais bon. Mm. Et donc au début, ils ont tiré la conclusion il ne faut pas planifier. Sauf que c'est encore pire. Et en fait, ils se sont rendus compte que la clé, c'est de passer des heures à faire un plan. Mais pas pour le plan, mais pour l'exercice mental que ça te fait avoir de planifier. Du coup, c'est plus important de planifier qu'avoir un plan. Et en fait, après, ils ont continué en se disant « Mais c'est quoi l'essence de ce truc-là ?» Et ils se sont dit « Le plus important avec notre armée, c'est pas tant qu'on leur dise comment ils doivent combattre, mais ils appellent ça l'intent. »
L'intention.
Ouais, voilà. Ils ont un terme spécifique qui est de dire « Je clarifie, au final, derrière tout ce qu'on va faire sur le terrain, voilà ce qui est le plus important. » Je vais prendre un exemple qui est assez populaire, qui n'est pas l'armée. Kennedy qui dit « Dans 10 ans, on met un homme sur la Lune et on le fait revenir. » Et ça, voilà, c'est l'intention. Et après, vous débrouillez de comment on va s'y prendre pour le faire, mais c'est ça que je veux qu'on arrive à faire. Et prenez un autre exemple, c'est Southwest Airlines, où l'idée, c'est « the low-cost airline ». Et il dit, plein de compagnies aériennes pourraient dire qu'on est la low-cost airline, mais eux, c'est extrême. C'est-à-dire qu'en gros, si les clients veulent du poulet, ben non, du poulet, ça coûte de l'argent, on veut faire le vol le moins cher. Donc, ils ne clarifient pas les moyens. Est-ce qu'on a le droit au poulet, pas au poulet ? Non, tu te démerdes, on fait le vol le moins cher de la planète. Et donc, surprendre le client en lui souhaitant son anniversaire, tu peux le faire, parce que ça ne coûte pas d'argent. Le surprendre avec des confettis, tu ne vas pas le faire, parce que ça va augmenter le coût de ménage. Ça me fait vraiment écho avec ce que tu dis, de passer plus de temps à être sur l'intention, qu'est-ce que tu cherches à accomplir derrière, plutôt que
le comment.
Les neuf étapes de exactement ce que tu veux, parce que tu vas être limité à ce que tu connais.
Voilà. Et surtout, ça dit aussi, traite ton équipe comme des gens en capacité de trouver leur propre chemin, en tant qu'êtres réfléchis qui vont prendre du plaisir aussi, parce qu'on aime tous résoudre des problèmes. Ils disent, OK, on doit aller là, donc je vais trouver mes propres moyens pour y arriver. C'est quand même beaucoup plus plaisant, gratifiant comme façon de travailler, je trouve, que exécute et tais-toi.
Du coup, j'aimerais creuser. Est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu as clarifié l'intention ? Il y a quelque chose qui a été produit par ton équipe. En soi, c'était très bien. Mais toi, alors sans dire tu n'aimes pas du tout, tu dis
Ah oui.
On n'y est pas. Ouais. Et c'est peut-être là aussi pour moi, j'ai encore un millimètre que j'aimerais creuser, qui est de dire à quel moment je lâche. Parce que ça peut être... Je peux factuellement me dire, non, la personne a bossé et c'est super. Mais là, c'est plus le côté artistique en moi qui va dire « Ah non, j'aimerais ça. » Et tu vois, typiquement sur le livret, le problème du design, c'est que je pourrais passer 2 ans à travailler le bouquin. Et au bout d'un moment, c'est pas forcément ce que le client il cherche quand il va lire le bouquin. Donc, je mets de l'énergie sur un truc qui n'est pas important pour lui. Comment tu fais pour sentir en toi, une fois que tu as clarifié l'intention, et le boulot, il est déjà bien, d'accord ? On n'est pas dans ces nuls, il est bien. Mais toi, tu te dis « Ah, peut-être qu'on pourrait faire autrement. » Est-ce que tu donnes du feedback ? Est-ce que tu te dis « Je lâche ?» Et ce n'est pas la priorité. Comment ça se passe pour toi ?
C'est hyper délicat. En fait, ce dont tu me parles, c'est clé. Et je t'avoue que moi, je lâche rarement l'affaire. En fait, c'est satisfaisant aussi pour l'autre avec qui tu interagis, hein, de voir que même quand c'est bien et que... tu sens qu'il y a un truc qui manque, tu le sens, tu le sais. C'est difficile de le rationaliser, tu peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais il manque un truc. Et donc, on va s'autoriser à tester des choses. Mais il faut que ce qui manque, tu puisses être en mesure d'expliquer à l'autre, toujours dans le ressenti du résultat. Bah là, tu vois, je trouve que ça manque un peu d'humour ou ça manque d'effet waouh. Mais qu'est-ce qu'on dit là quand on fait ça ? Tu fais participer surtout l'autre, hein, à s'écouter aussi et à ce qu'il soit amené à être dans un questionnement par rapport au résultat pour qu'il comprenne aussi la démarche. Parce que si tu arrives et que tu dis juste « il manque un truc », c'est frustrant pour l'autre. Alors si tu arrives et tu dis « qu'est-ce que tu ressens là ? Est-ce que pour toi on est complet ? Tu crois pas qu'il... Et si on rajoutait une petite pointe de sel ? Et si on mettait un peu de muscade ?» Tu vois ?
Ouais, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'au-delà d'à la fin avoir le livret que tu veux, comme si tu continues la formation de la personne pour que la prochaine fois, elle le sente d'elle-même que tiens, tu vois, par exemple, en ce moment, on a formulé un mot qui est que dans notre communication, on veut vraiment amplifier le côté badass. Et depuis qu'on l'a formulé, ça aide beaucoup de choses, en fait. C'est-à-dire que du coup, ça permet de se dire, c'est beau, mais est-ce que c'est badass ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut amener ? Donc, ça me parle de dire, OK, je le fais pas seulement pour finir le livret, je le fais aussi dans l'idée de donner à la personne l'espace de mieux comprendre la direction, la vision, les valeurs. C'est ça que tu veux dire ?
Ouais, alors après, excuse-moi, en t'écoutant, je pensais aussi que, en fait, finalement, le plus important, c'est pas que le truc soit parfait. Parce que là, tu parlais de « c'est nul, c'est bien, c'est waouh ». Ça, c'est ma façon de faire. Moi, j'aime quand c'est hors du commun. Donc, c'est inattendu. Ce que j'aime, c'est créer la surprise. Donc, finalement, c'est pas tant que ce soit parfait, c'est rarement parfait. Donc, je peux lâcher l'affaire quand c'est pas exactement parfait. Par contre, si...
c'est pas inattendu, ça va pas.
Voilà. Si ça ne crée pas la surprise, si ça n'attise pas la curiosité de celui qui prend en main l'objet, alors là, on a raté le truc. C'est ma règle à moi. Et en fait, je pense qu'on devrait tous avoir des règles.
Et c'est un peu l'intent principal,
ouais,
du coup.
Voilà.
Un peu comme The Low Cost, ils veulent le moins cher.
Voilà.
Il faut que ça soit inattendu.
C'est ça. Il faut créer la surprise et donner envie d'aller plus loin.
Tu sais, une phrase que j'ai répétée des centaines de fois dans mes séminaires, et du coup, c'est pour ça que j'ai conscientisé le « create O for people
ouais. ».
Dans Gladiator, tu as Maximus qui demande à son maître esclave, donc il veut obtenir sa liberté, « comment je peux devenir libre ?» Et il lui répond « si tu veux devenir libre, il faut que tu gagnes la foule. » Et il répond « je vais leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. » Cette idée-là, je l'utilise souvent dans les séminaires business, et en rigolant, en disant que Maximus a impacté mon business. Parce que moi, c'est pour ça que j'adore cette notion de mouvement. Capter l'attention, enseigner quelque chose de manière ludique, ça me fascine. Et ça part souvent de cette idée de surprendre, faire quelque chose que la personne n'a jamais vu, faire quelque chose de différent qui fait que d'un coup, elle s'arrête. Effectivement, ce n'est pas la question de est-ce que c'est beau ou pas, mais
non.
Ça la capte. Je suis assez fan des moments de transition dans une boîte où on change quelque chose et sans faire plus d'efforts, tu changes un truc dans le produit, tu changes un truc dans le marketing et d'un coup, ça génère plus de résultats. Est-ce que tu as des exemples d'un ou plusieurs trucs que vous avez changé dans The Family et d'un coup vous le changez, il y a ce phénomène, tu vois, Oussama, il parle souvent de « success is obvious ». Est-ce que vous avez des trucs comme ça que vous avez changé et ça a généré plus de résultats sans faire plus d'efforts ?
C'est marrant que tu dises ça. Alors oui, tout le temps, ça arrive tout le temps, entouré de plein de projets qui, eux, capotent, hein, d'accord ? Donc
ouais.
T'as vraiment les deux. Mais là, récemment, ce qui s'est passé, c'est que, alors c'est pas exactement ça, mais on fait beaucoup de formations pour les gens qui veulent apprendre à entreprendre. Donc t'as Coup d'État, chez Lyon, t'as les employés qui veulent s'approprier la culture start-up. Et puis moi, à un moment donné, l'année dernière, j'en ai eu marre parce qu'il n'y avait pas du tout de femmes entrepreneurs qui venaient toquer à la porte de The Family. Donc j'ai décidé de créer un programme qui s'appelle Gold Up, qui forme des femmes à l'entrepreneuriat. Et ce programme avait lieu en physique. Il avait lieu donc tous les samedis, pendant 5 samedis, tu avais 50 nanas qui venaient et je rassemblais des intervenants pépites que j'avais été chercher dans l'écosystème de The Family pour qu'ils leur transmettent leur savoir-faire. Et tout ça marchait très bien parce que quand tu réunis des femmes qui partagent tout un niveau très élevé de motivation pour passer à l'action, ça crée de la magie parce que ensemble elles vont passer plus vite à l'action. J'étais très, très, très satisfaite des résultats de comment les filles avançaient pendant ce programme. Et puis là, arrive Covid. Et donc, pour le coup, il faut changer. J'ai failli abandonner. Je me suis dit, bon, bah, ça ne sert à rien de faire un programme qui vise à aider les femmes, et où je pensais que la valeur était quand même dans le fait qu'on se côtoie, et les petits chit-chat-talks entre les deux cours, ces petits moments où on déjeune ensemble. Je pensais que c'était ça aussi qui participait vraiment à la valeur. Et donc, je me suis dit, si, à partir du moment où on est en ligne, on va tout perdre. On a fait la bêtise de diviser par deux le prix de la formation quand on l'a passé en ligne.
En se disant, il y a moins de valeur, on baisse le prix.
Exactement. Alors qu'en fait, il y avait beaucoup plus de valeur. Mais alors, beaucoup plus. Et ça, c'est un truc, pour le coup, tu vois, c'est inattendu. Alors, on a changé des petites choses quand même. Le prix n'a pas impacté le nombre d'inscrits. C'est pas parce qu'on a baissé le prix qu'il y avait plus d'inscrits. On avait le même nombre d'inscrits.
Vous avez augmenté depuis ?
On a augmenté le prix depuis, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que surtout, la qualité en online est meilleure qu'en offline.
Liée à quoi ?
C'est vraiment des surprises pour moi, pour le coup. Si tu veux,
en gros... Ça m'intéresse, parce que je suis en plein dedans, moi.
Ouais, surtout sur du programme online. Comment est-ce que tu fais pour que des gens online connectent entre eux et vraiment bond together, vraiment un truc fort ? Parce que c'est ça, l'intérêt des formations. C'est au-delà du contenu que tu pourrais trouver n'importe où. C'est ces gens qui vont vivre la même chose et avec qui, potentiellement, tu pourrais t'associer. Parce que moi, j'adresse des entrepreneurs. Donc, un des principaux problèmes, c'est où sont les gens qui sont dans une démarche comme la mienne et avec qui je pourrais m'associer ? Surtout les femmes. Les femmes sont des solo founders. C'est un des principaux problèmes. Pourquoi il y a si peu de femmes entrepreneurs ? Parce qu'elles ne trouvent pas d'associés. C'était une clé, ce truc-là. Et donc, en gros, quand tu passes en ligne, d'abord, la première chose, c'est qu'il y a une diversité dans ton groupe qui est beaucoup plus intéressante. Oui, tu n'as pas le petit Parisien ou la petite Parisienne qui est là parce que c'est pas loin. Tu as la fille qui suit toutes les vidéos de The Family depuis Mayotte. Tu en as une autre qui est en Belgique, une autre qui est en Suisse. Voilà. Donc déjà, tu as des gens qui sont partout, donc qui ont des cultures absolument différentes. Donc ça, c'est essentiel pour l'innovation, tu le sais, d'avoir des gens qui viennent vraiment de backgrounds différents et qui ont des cultures différentes. Deuxième chose, c'est que tu as en ligne, alors peut-être que c'était parce que Covid, on va tester là parce que c'est un peu moins le stress quand même en ce moment, mais tu as le désir de dépasser la distance. D'accord ? Les gens qui reçoivent leur contenu depuis leur ordinateur, en live, ils savent qu'il y a d'autres gens qui regardent en live, ils ont envie de dépasser cette distance. Et donc, pour dépasser cette distance, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas remettre en question les règles que tu leur donnes. À la différence d'un cours en physique où nous, Français, on a l'esprit critique et on aime bien aller à l'encontre de ce que le professeur y raconte. Il a donné ça comme devoir, on va faire ça. Voilà, donc c'est un peu une façon d'être, hein. C'est une attitude très, très française. À Gold Up, souvent, les filles disent « Ah oui, elle négocie. Mais alors, tu nous as dit de faire ça, mais est-ce qu'on peut le faire comme ça ? Et puis, en fait, comme ça, etc. » Et donc là, c'est non négociable, en fait. Quand tu es online, tu n'as pas le temps. Et surtout, tu ne vois pas les autres en mode négociation. Tu
n'as pas l'effet de foule de « on est trois à ne pas être d'accord,
ouais,
donc on est
trois. » Donc, on va contester.
Ouais, c'est là, ça. Tout seul.
Exactement. Tu es tout seul. Donc, du coup, tu appliques la règle. Donc, c'est génial. Parce que si tu es content, toi, en tant que professeur de tes règles, et tu sais qu'elles marchent, bon, déjà, tu perds moins de temps. Ensuite, il y a un truc hyper intéressant qui se passe, c'est que au lieu d'avoir des biais inconscient, hein, quand tu es dans une même salle avec plein de nanas, donc nous on les invite à se côtoyer, on les invite à faire des travaux de groupe, on les invite à travailler ensemble. Comment tu choisis la nana avec qui tu veux travailler ? Tu sais pas comment tu l'as choisie en vrai. Tu l'as choisie basée sur son attitude, sur son look, sur ses mots, et sur est-ce qu'elle est rassurante pour toi ? Parce que tu te sens menacée souvent dans un groupe social, et c'est normal. Surtout un premier jour dans un environnement où on n'a rien prouvé, il faut tout prouver, et où c'est l'entrepreneuriat et ça nous fait peur. Donc c'est normal. Mais donc tu choisis les gens pour les mauvaises raisons. Tu choisis parce qu'ils te ressemblent. Et donc quand tu es en online, tu fais remplir aux nanas avant quelles sont tes valeurs, à quoi tu aspires, une petite vidéo de 2 minutes qui te présente. Tu regardes ça, tu n'es pas jugé, tu sais que personne ne te regarde toi quand tu es en train de regarder les. Et donc tu apprécies au bon niveau. Tu ne te sens pas pressé pour choisir absolument maintenant. Hein, tu as vraiment en face de toi des valeurs, donc c'est concret. Et tu vois si ça résonne en toi. Et donc, tu vas choisir les gens pour les bonnes raisons. Donc, les associations qui se sont faites entre les nanas étaient beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus intéressantes.
Tu connectes les gens comment ?
Nous, on utilise un outil. Alors, on est sur Slack. On utilise Opin,
qui est
une super startup.
Tu es content de...
J'adore.
Parce que tu payes par personne, par événement, c'est ça ?
Ah, ils changent tout le temps leur pricing. Donc, en fait, moi, je sais qu'en ayant comparé tous les produits qui existaient, c'était le meilleur rapport qualité-prix.
Parce que, par exemple, par rapport à un Zoom, en utilisant les mini-rooms, là...
Non, mais Zoom, c'est... Non, mais Zoom, c'est...
Zoom, faut pas.
Non, mais si tu veux, si t'accordes de l'importance aux interactions, les possibilités dans Opin sont exceptionnelles. Par exemple, le look. Visuellement, tu as toujours un chat à côté. Il n'est pas dans une espèce de mini box, là, parce que le chat de Zoom, il est insupportable.
On sent que t'es physiquement, t'es pas bien.
On est étriqué par le chat de Zoom, quoi. Il faut appuyer sur le truc. Non, là, il est là, il est en display en permanence. Et surtout, tu as un environnement où on te dit, voici, au cas où t'es perdu, tu as une réception. Dans la réception, toi, en tant que host, organisateur, tu as raconté le déroulé. Tu peux cliquer et tu arrives dans une salle. Et toi, en tant qu'aussi organisateur, tu peux pré-organiser plein de salles avec des conversations avec le nombre de gens que tu veux. Les gens peuvent se voir, parler, et tu peux intervenir, ressortir. Enfin,
c'est vraiment bien fait pour ça.
T'as la sensation, j'ai jamais vu un outil qui me permettait de faire autant de choses sur de l'interactif et de la transmission de savoir. C'était l'outil parfait pour nous. Après, je pense qu'il y en a plein d'autres, hein, mais il nous a vachement plu, cet outil. Vachement. Parce que ça permettait de donner une sensation qu'on était tous virtuellement dans une espèce de grand bâtiment où on passait d'une salle à l'autre. Donc, très facile. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, le programme a été beaucoup mieux évalué à la fin, hein, par les utilisatrices, par les participantes. Et les retours sont dithyrambiques. Et j'aurais jamais imaginé. Je pensais qu'on allait assurer un petit peu, voilà. On perd, hein, dans le passage en online, mais au moins, vous avez une version peut-être pas aussi bien, mais non, c'est vraiment mieux. Et ce qui est fou, c'est que les filles ne se sont jamais rencontrées et certaines montent des boîtes ensemble. En plus, tu as ce passage au tout online qui est facilité, quoi, par Gold Up. Elles ont expérimenté pendant le programme tous les outils, tous les machins, et ça y est, elles sortent de là, elles sont prêtes pour la remote life, quoi.
Tiens, transitionnons là-dessus rapidement. C'est quoi les 3 plus gros apprentissages pour bien bosser en remote pour une boîte? Parce que je sais que non seulement vous avez eu la question, vous, mais vous avez eu doublement la question, que vos startups aussi ont eu la question pour beaucoup.
D'abord, il y a plein de choses dont on peut s'inspirer des boîtes qui, elles, dès le départ, ont démarré en remote.
Zapier, Basecamp,
des exactement. Trucs comme... Donc franchement, il ne faut pas hésiter à lire des petites règles bêtes, genre tu ne peux pas avoir un gars en Zoom et deux gars en physique ensemble pour une réunion à 3, parce que c'est soit tout le monde sur Zoom, soit tout le monde en physique. Des petites règles bêtes qui ont déjà été testées sur comment tu assures que ça se passe au mieux.
Juste pour bien la conscientiser, ce que tu viens de dire, tu ne peux pas avoir...
C'est soit tout le monde en Zoom, soit tout le monde en physique. Mais tu ne peux pas faire 4 personnes qui sont en physique et 2 gars en Zoom.
Donc là, par exemple, imaginons avec l'équipe,
ouais,
il y a toute une partie de l'équipe qui n'est pas là.
Ouais.
On a une réunion à faire. C'est-à-dire chacun prend son ordi et se met sur Zoom.
S'il y a d'autres gens sur Zoom.
Oui, il y a d'autres gens sur Zoom.
Bah, vous mettez chacun dans une pièce. Oui, pourquoi? Parce qu'une réunion, pour que ça fonctionne, il faut que ça circule. C'est-à-dire que tout le monde soit à égalité.
Donc on ne se met pas à 5, je ne sais pas combien on est, à 5 derrière un ordi et se parle.
Non.
On se met chacun sur un ordi.
Ouais.
Intéressant.
Bah oui, parce qu'en fait, vous cinq, ça crée une distance.
On va avoir un lien qui est différent.
Exactement.
Ceux qui sont sur Zoom n'ont pas accès.
Bon, après, si tu as le choix, hein, bien sûr. Quand tu n'as pas le choix, tu fais comme tu peux. Hein.
Tu parlais de vulnérabilité. Je vois beaucoup de personnes dans mon audience qui, justement, mettent les entrepreneurs qui réussissent, je vais le mettre entre guillemets,
sur
un piédestal, en se disant, bah, justement, un peu le personnage de Pixar qui n'a pas de fragilité, pas de faiblesse. C'est quoi pour toi un des moments qui a été le plus dur dans le parcours de The Family, un moment où c'était le plus challengeant émotionnellement? Ce que tu en as appris, comment tu as grandi de ça?
Écoute, il y en a très souvent des moments très difficiles. Ce qui m'a personnellement le plus touché, ça a été le premier Prud'homme. Quand il y a eu un employé qui nous a attaqué en justice.
Tu l'as vécu comment?
Très mal. C'était mon premier, et surtout c'est quelqu'un que je considérais comme un ami.
C'était quoi la sensation? C'était de la trahison? C'était quoi l'émotion?
T'as un mélange de plein de choses. T'as un mélange de trahison, t'as un mélange de colère. T'es sur le...
L'injustice.
Sur le cul, quoi. Tu te dis, mais pourquoi? Un sentiment d'injustice, t'as tout ça qui vient. Puis t'as quand même une remise en question aussi.
Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal dans...
Bien sûr. Après, tu parles avec d'autres entrepreneurs à qui c'est arrivé et qui t'expliquent que tes étapes sont normales et que c'est pas grave. Voilà, ça a été, on va dire, récemment, ça a été quelque chose qui, moi, m'a fait mal, ouais. Ça m'a fait mal. Après, ça t'aide à prendre du recul et à te dire, voilà.
Bon,
t'en apprends sur la nature humaine aussi.
Écoutez, quoi, voilà.
On dit les entrepreneurs, il faut être résilient. Qu'est-ce que ça veut dire être résilient? Ça veut pas dire être un punching ball qui ressent rien et rester de marbre. Ça veut dire, quand face à l'adversité, t'as des moments difficiles, oui, te remettre en question, poser un genou à terre, digérer, on va dire, et ensuite rebondir. Il y a un mouvement. Tu vois, la résilience, c'est pas quelque chose de pouf, ça ne me touche pas. C'est de l'acceptation et être capable, malgré ça, de faire confiance, d'être léger. Je parle d'énergie, de vibe, d'émotion, etc. Mais c'est ça, notre métier, quand tu t'accompagnes des entrepreneurs qui démarrent, ils n'ont rien d'autre que leurs croyances et leur potentiel. Ils n'ont pas encore de preuves concrètes. Donc finalement, toi, ce que tu leur apportes, c'est de la confiance. Si toi, tu es en perte de confiance, tu vas avoir du mal à leur en donner. Tu vas avoir du mal à y croire pour eux. Donc, c'est mon bien le plus précieux, la confiance en moi. Et le fait que je suis juste dans ce que je ressens, c'est un outil important. Donc là, il était mis à mal et donc c'était difficile.
Imaginons que quelqu'un nous écoute, il est en plein dedans, il vient de découvrir que quelqu'un avec qui il avait confiance, avec qui il a créé une relation, vient de l'attaquer au prud'homme. Quelles questions il pourrait se poser si tu voulais lui raccourcir encore un peu plus le temps? Pas dans l'idée, comme tu as dit, de rien vivre, mais ça serait quoi les bonnes questions que toi, tu te poses pour aller vers cette résilience? Encore une fois, je précise, pas en t'interdisant de vivre ton émotion et de te sentir mal, mais c'est quoi
le chemin
pour accepter plus rapidement, pour transformer plus rapidement, pour apprendre plus rapidement?
Il faut sortir d'une forme de mégalomanie. T'es pas responsable de tout et c'est pas à cause de toi personnellement. C'est soit de la mégalomanie, c'est-à-dire je suis responsable de tout, soit je suis victime de tout, enfin l'un ou l'autre.
Ouais.
Ne te victimise pas.
T'es ni impuissant, ni surpuissant. Quoi.
Exactement. Il y a des choses qui t'échappent. Tu ne connais pas l'ensemble des expériences de la personne qui l'ont amené à, certainement, sincèrement, penser que tu étais injuste et que tu méritais d'être attaqué. Donc, c'est la première chose, c'est que c'est sort du truc, de l'attaque personnelle.
Yes.
Et d'une forme de pouvoir sur cette chose-là. Donc, tu n'as pas de pouvoir. Par contre, accepte ta responsabilité et passe par la remise en question, c'est important.
Qu'est-ce qui est en pouvoir là? Pour une prochaine fois, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce qu'il y a d'enrichissant là-dedans, c'est ça?
Exactement. Et ça, c'est pas facile parce que t'as du ressentiment. T'es dans un truc de « il m'attaque, donc tu veux attaquer ». Enfin, tu vois, à partir du moment où tu te fais attaquer, t'es en position de défense.
C'est quoi la pépite que t'as retirée?
Malgré la position de défense, être en capacité de sortir de cette peut-être haine que tu ressens, repenser au bon moment avec cette personne et te dire « peut-être que dans 10 ans, on se tapera dans la main et on en rigolera. J'en sais rien ». Et puis pour tes employés, en fait, tout simplement, montrer que t'es pas dans un truc de fight. Tu laisses aussi une forme de dignité à la personne qui a fait ça. Elle a 1000 raisons, en fait, si ça se trouve. Faut pas rester sur le conflit en tant que tel. Et surtout, bon, et là, c'est ce qui est le plus difficile, oui, c'est de prendre les choses avec recul, de passer à autre chose. De pas en tirer des grandes conclusions de « ça y est, je suis le pire des managers » ou « je ne peux plus faire confiance à personne » ou voilà, non.
Et toi, il y a un truc traiter là, tu dis « ça, c'est la plus grosse pépite que j'ai apprise de ce moment-là pour toi ».
Je suis allée au tribunal et l'avocate en face a commencé sa plaidoirie en disant « je vais vous présenter le temple de l'esclavagisme ».
En parlant de The Family ?
Ouais.
Ça fait mal, ça.
Là, mais j'ai cru que j'allais fondre sur place. Ce que m'a appris, c'est de prendre les choses moins à cœur et de comprendre que le combat, il est beaucoup plus long terme. Il n'est pas de gagner cette micro-bataille qui n'est plus... En plus, ta mission, elle n'est pas d'en défendre tes valeurs pour prouver absolument que tu as raison. Ta mission, elle est d'accompagner les entrepreneurs.
Ça, je pense que c'est une vraie pépite qui est que quand on est face à un problème, tout notre focus va sur le problème, qui a un sens en soi, plutôt que de se redresser et de mettre le problème en perspective avec le truc global qu'on essaye d'accomplir, la vision globale qu'on essaye de construire. Et je pense que ça aide beaucoup. Parce qu'effectivement, un problème, quand on le regarde, il peut paraître immense, il peut paraître bloquant surtout. Et si tu le mets à l'échelle de ce que vous avez envie d'essayer de bâtir, c'est...
Ah, c'est rien.
C'est rien. Ne pas passer par là, ça serait presque un indicateur. Comment ça se fait, quoi? Ça n'existe pas une grosse boîte qui a fait quelque chose de significatif sans passer par ces challenges-là. Et en plus, moi, je le vois parce que mon métier, c'est d'accompagner l'humain. Et un des trucs que j'adore, entre guillemets, c'est quand j'accompagne un couple dans leur conflit et que j'ai, dans le même mois, l'homme et la femme qui me donnent leur vision du monde. Et je trouve que c'est pour moi une des expériences les plus riches pour apprendre à quel point les deux sont pas d'accord, les deux sont sincères,
ouais.
Les deux sont dans leur délire. Et si moi, tu m'avais fait écouter que l'un...
Tu l'aurais cru.
Mais plus que cru, j'aurais été en mode...
De
ah,
son
putain,
côté.
Mais, comment il peut faire ça, ton mari? Et c'est vraiment incroyable pour moi d'avoir les deux lectures. Et ça permet vraiment de comprendre que les gens, ils sont dans leur vision du monde, dans leur perception, ils interprètent quelque chose. C'est fascinant aussi quand j'interviens en entreprise, tu vas discuter avec le manager et le manager. Le manager dit c'est du harcèlement et tu discutes profondément avec le manager et j'ai pas d'a priori. t'entends le manager qui dit, qui est vraiment sincère, qui dit, bah, je sais pas, je voulais l'aider, je voulais la pousser. Et le manager qui est sincère aussi, qui se dit, mais il m'a trop poussé, il me respectait pas. Et c'est fascinant, l'être humain, comment voilà, on construit nos perceptions, nos visions du monde. Et il n'y a pas la vérité, en fait. Chacun sa lecture de la situation. Enfin, mon métier, il est fascinant là-dessus. C'est ce que je dis souvent à mes clients. Je dis, je pense que vous iriez discuter avec des gens que vous condamnez et vous passeriez vraiment bien du temps sûr. Avec cette personne, vous seriez perturbé.
Bah, bien sûr.
Qu'est-ce que peu de gens savent sur toi ?
Il y a peu de gens qui le savent parce que je ne suis pas quelqu'un de connu. J'essaie de, tu vois, de vraiment d'être au service de la boîte et tout. Donc, je ne partage pas trop ma vie privée. Donc, je pense que les gens ne savent pas grand-chose de moi. Ils ne savent pas que je dessine. Peu de gens savent que j'aime beaucoup dessiner.
Tous les dessins, c'est toi qui as fait. Hein.
Ouais. Sauf ceux en couleur, tu vois, à l'intérieur des double pages en couleur. C'était Camille qui était designer chez nous, mais sinon tout le...
Tu veux dire ça, par exemple ?
Voilà. Ça ne veut pas que je dessine et que j'adore ça. C'est du dessin expressif, hein. C'est pas du dessin qui a vocation à être réaliste, mais voilà.
Alors, des petites questions rapides.
Allez, vas-y.
Microsoft ou Apple ?
Apple.
Ah, pourquoi ?
Je suis tellement à l'aise avec mon Mac. Quand tu es étudiante en France, en école de commerce, on t'invite à acheter des IBM.
Malheureusement, on sent la détresse.
Le jour où j'ai découvert l'univers Apple, je me suis dit, mais pourquoi ? Non, en tant que designer, quand t'es beaucoup sur la suite Adobe, c'est quand même beaucoup plus agréable.
C'est clair. Netflix ou Disney ?
Ah, bah écoute, je suis Netflix.
Ah, c'est dur là.
Mais la Disney avec le film de Beyoncé, je me suis inscrite. Et du coup, je suis tombée sur des vieux films parce que j'ai vu qu'ils avaient Qui veut sauver la peau de Roger Rabbit, qui est vraiment mon film adoré.
Ils sont touchés dans le cœur.
Ah. Et puis Sister Act 1 et 2. Donc je me suis replongée dans des films comme ça, un peu nostalgiques, mais j'avoue que je me suis désabonnée après. Et bah oui, parce que on va pas tout cumuler. Franchement, Love Netflix, elle est exceptionnelle. J'ai découvert une série là qui s'appelle Notre Planète. Je sais pas si vous avez regardé.
Non, c'est sur quoi ?
C'est une prouesse. Le truc, c'est aussi impressionnant qu'une start-up pour moi. Même plus, en fait. Tu vois, c'est la WWF qui a financé un projet de documentaire d'animaux. Ça te montre un peu tous les liens qui existent entre le changement climatique et la dégradation des conditions de vie de l'ours polaire. Ça a mobilisé 400 personnes dans 60 pays pendant 4 ans. Tu as des images, t'as l'impression que c'est des images de synthèse tellement c'est sublime. Il y a des mecs qui sont cachés dans des cabanes pendant 2 ans pour pouvoir choper le tigre de Sibérie. À l'image. Moi qui utilise beaucoup d'animaux tout le temps dans les communications, sur Instagram, sur Internet, etc., je veux dire, je les connais, les tigres. Je sais lesquels reviennent. Sur Google, vraiment, ne me crée plus de surprises parce que j'ai l'impression de les avoir tous vus. Et là, je peux te dire que j'appréciais les images. C'est du jamais vu. C'est sublime.
En tout cas, tu le vends bien.
Je suis restée scotchée. Donc Netflix, ouais.
Elon Musk ou Jeff Bezos ?
Elon Musk.
Ok. Malcolm X ou Martin Luther King ?
Martin Luther King.
Pourquoi ?
Parce que je suis plus peaceful.
Ouais, c'était plus violent à Malcolm X.
Non, mais il faut de tout, tu vois. Il faut de tout dans chaque époque. Et ces derniers temps, on a beaucoup parlé du rôle de la colère et de la nécessité de la colère. Et qu'en fait, que la colère, elle peut faire avancer aussi. Mais si tu me demandes, j'ai pas envie de violence, quoi. Et surtout, en fait, là, je m'interroge maintenant et je suis pas dans un mood de violence.
Mmh. En tout cas, ça va être une violence plus soft, quoi.
Ouais.
C'est ça ?
Ouais.
Il y a un côté violent dans le fait de, par exemple, de polariser, de radicaliser, mais c'est une petite violence.
C'est pas une petite violence, c'est dire les choses telles que tu les ressens, le but n'étant pas de heurter les gens.
Ouais, je comprends.
N'étant pas de blesser, mais plutôt de libérer ceux qui subissent comme toi un certain nombre de limitations, quoi.
Remote ou bureau ?
Ah bah remote.
Pourquoi ?
Tout de suite maintenant, en vrai, on va pas se faire croire qu'on a eu le choix. C'était Covid.
Alors justement, après Covid terminé, remote ou office ?
Et je dirais qu'il faut être un peu flexible. Je pense que pour l'instant, remote me va très bien parce qu'on est encore dans une période fraîche du changement et que c'est septembre et que on a tous plaisir à se voir et ils viennent, enfin, avec l'équipe, on travaille les uns chez les autres. Donc, c'est assez ouvert comme modèle. Après, sur le long terme, je pense qu'il faut avoir peut-être des petites solutions. Ce à quoi on pensait, c'est se réunir dans des endroits. T'as plein de startups aujourd'hui qui se lancent sur du flexi un peu comme Airbnb, mais version
bureau.
Bureau, ouais. Je pense qu'on est dans un contexte très spécial, qui n'est pas le remote d'avant. qui n'est pas un remote choisi parce que c'est un lifestyle. On est dans un moment où il y a eu une crise sanitaire. Aujourd'hui, on se balade tous avec des masques. Il y a une crise économique. On est en ce moment dans un environnement qui est chaotique. Et surtout quand tu prends la Startup Nation, hein, chez nous, dans les entrepreneurs, il y a des gens qui sont aux États-Unis en ce moment. Les États-Unis, l'environnement, là, c'est Black Lives Matter, tout le monde activiste à défendre la cause des gens qui se font tuer. C'est Trump qui fait n'importe quoi. Et puis, tu as l'environnement économique en plus et tout le monde qui est en quarantaine encore. Et d'ailleurs, juste tout simplement, tu prends les hôpitaux psychiatriques, là, ils sont complètement dépassés. Ça, c'est à prendre en compte dans une boîte, dans ton management. Il faut en revanche que tu prennes soin absolument du mood de tes équipes, de l'émotion. Il faut que les entrepreneurs n'aient pas peur de dire qu'ils ne savent pas, qu'aussi il y a de la peur, qu'il y a de l'incertitude, qu'ils fassent plus de one-on-one avec leur équipe, parce que là, en ce moment, les gens ont besoin de partager. Le cadre que pouvait être le boulot, mine de rien, ou la société en mode fast life, resto ouvert, soirée à gauche, à droite, etc., là, elle n'est plus. T'imagines, tu prends le métro, tu vas dans une tour où tout le monde doit porter le masque, tu respires ton propre air pendant toute la journée. Enfin, bien sûr que ça a un impact. Il s'agit simplement de libérer la parole à ce niveau-là. C'est aussi important pour les entrepreneurs eux-mêmes qu'ils fassent très très attention à leur équilibre, qu'ils fassent plus de méditation, plus de sport, plus de balades dans la nature. C'est nécessaire.
Si tu as aimé ce podcast et ce type de contenu avec des entrepreneurs au parcours incroyable, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, on a créé une vidéo qui recense les 6 clés indispensables pour scaler ton business.
Donc aujourd'hui, j'ai développé tout un set de techniques pour aider les entrepreneurs que j'accompagne à bien sûr garder la foi, conserver cet optimisme de « je vais y arriver, je peux le faire, j'y crois », mais en même temps, être capable de manière, ce qu'on pourrait appeler un pragmatisme pessimiste ou le pessimiste pragmatique, c'est-à-dire voir les obstacles et les anticiper de manière le plus calme, centrée et stratégique possible. Charlie Munger a ce qu'il appelle la technique de l'inversion. La technique de l'inversion, c'est de faire presque contre-intuitivement l'opposé que de visualiser que ça va bien se passer.
Si tu veux découvrir ces 6 clés contre-intuitives qui vont te permettre de booster ton business, regarde la vidéo gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.